Oui, c'est un privilège de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. C'est véritablement la parole de Dieu que nous entendrons maintenant, qui est tirée de l'Évangile de Jean, au chapitre 15, à la page 124. Jean 15, je lirai les versets 12 à 17, mais notre texte pour aujourd'hui, ce sont les versets 14 et 15, plus spécialement le verset 15, 14 et 15, qui feront l'objet de la prédication. Écoutons donc Dieu qui parle à son Église. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Prions notre Dieu. Père céleste, toi qui nous as révélé ta parole, tes projets, tes pensées, donne-nous aussi ton Esprit Saint, afin de faire pénétrer en nous tes pensées profondes. Que tes pensées transforment nos pensées. Que tes pensées, dans ta parole, viennent éclairer nos vies. Que ta parole vienne retentir en nos cœurs, afin que nous gardions richement cette parole sainte et bonne. Ô notre Dieu, nous te prions, viens parler à tes enfants aujourd'hui, afin que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre confiance en toi, dans notre obéissance à ta parole, dans notre service chrétien. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous êtes mes amis, nous dit Jésus. Vous êtes mes amis. Une parole bouleversante. Nous qui étions ses ennemis, il a fait de nous ses amis. Lui, le Créateur du ciel et de la terre, il a donné sa vie pour que nous devenions réellement ses amis. Quel genre d'amis sommes-nous pour lui? Un ami, nous savons ce que c'est. Un ami, c'est quelqu'un avec qui nous partageons des intérêts communs. Un ami, c'est quelqu'un de loyal, avec qui nous avons la liberté de nous exprimer, en qui nous pouvons nous fier. Avec un ami, nous vivons une intimité, une complicité. Quand Jésus nous appelle ses amis, il y a un peu de tout cela dans sa relation avec nous. En même temps, nous percevons bien qu'il y a aussi quelque chose de différent. Nous ne sommes pas copains-copains avec Jésus. Il n'est pas comme un camarade de classe, un collègue de travail, un chum qu'on pourrait traiter d'égal à égal, non. Après tout, il est notre Seigneur et notre Maître. Ce n'est pas n'importe quel ami. Dans notre texte en Jean 15, nous voyons cette double réalité. Nous sommes les amis de Jésus. Il nous fait entrer dans son intimité. Il partage avec nous ses pensées secrètes. En même temps, il nous donne ses commandements comme seul un Seigneur et Maître peut le faire. Découvrons donc ensemble un peu plus la joie d'être les amis du Seigneur Jésus. La joie d'être les amis du Seigneur Jésus, c'est le thème de ce message. Premièrement, nous sommes ses amis, et pourtant il demeure notre maître. Et deuxièmement, nous verrons que nous sommes ses amis, car il nous révèle ses secrets intimes. Donc, premièrement, nous sommes ses amis et pourtant, il demeure notre maître. Au verset 15, Jésus dit à ses disciples une parole intrigante. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. » Ici, il serait facile de conclure, à partir de ce seul verset, que Jésus oppose deux notions qui seraient contraires. Être ami de Jésus, être son serviteur, ce serait diamétralement opposé. Nous ne serions plus ses serviteurs d'aucune manière, nous serions uniquement ses amis. Désormais, nous serions libres de vivre une relation d'égal-égal avec lui. Et plusieurs chrétiens, malheureusement, pensent de cette façon. Être chrétien, ce serait vivre avec lui une relation sans contrainte, faite de plaisir, de rire, de bonheur, sans aucune obligation de servir le Seigneur Jésus-Christ. N'allons pas trop vite. Attention quand nous lisons la parole de Dieu. Comprenons bien cette parole dans son contexte. Jésus oppose amis et serviteurs sur un aspect seulement. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, dit Jésus, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a appris. Jésus nous révèle ses secrets intimes et c'est pourquoi il nous appelle non plus ses serviteurs, mais ses amis. Mais sur tous les autres plans, nous sommes encore ses serviteurs. Bien sûr, puisqu'il est notre maître. Nous sommes amis et serviteurs en même temps. Abraham fut appelé ami de Dieu. Pourtant, Dieu l'appelait « mon serviteur Abraham ». Moïse était très proche de Dieu. Il vivait une grande proximité avec Dieu, tellement que son visage rayonnait, brillait, parce qu'il avait vu, il avait été tellement proche de la gloire de Dieu. Et Dieu a dit « mon serviteur Moïse est fidèle ». Proche de Dieu, mais serviteur en même temps. Dans le livre de Josué, plus de 15 fois Moïse est appelé serviteur de l'Éternel. Josué est appelé serviteur de l'Éternel. Dieu dit de David, mon serviteur. Deux fois, Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un honneur d'être appelé serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel. Même Jésus est appelé serviteur de Dieu par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, et par l'apôtre Pierre, en Actes 4. La venue du Sauveur a-t-elle changé quelque chose à cette relation de serviteur et maître? Eh bien, écoutons des amis proches de Jésus. Jude se présente comme étant serviteur de Jésus-Christ. Jacques se présente de la même manière au début de sa lettre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pierre aussi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Paul se plaît à dire qu'il est serviteur du Christ Jésus appelé à être apôtre. Dans l'Apocalypse, tous les croyants sont appelés des serviteurs de Dieu. Apocalypse 19, 5, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et à la fin des temps, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il existera une très grande proximité avec Dieu, nous verrons sa face. Nous brillerons d'une gloire encore plus grande que Moïse. En même temps, nous serons ses serviteurs pour l'éternité. Amis et serviteurs. Et si nous revenons ici dans notre texte, dans la chambre haute, un peu avant, dans Jean 13, versets 12 à 16, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus s'est abaissé à devenir humble serviteur lui-même. En même temps, il demeure notre Seigneur et notre Maître. Vous faites bien de m'appeler Seigneur et Maître, dit-il. Oui, car c'est moi qui vous enseigne ce qu'il faut croire et de quelle façon vivre. Et puis dans Jean 15, verset 20, donc quelques versets après notre texte, Jésus reprend la même idée. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, quel genre de relation Jésus entretient-il avec ses disciples? Une relation de maître et serviteur. Un très bon maître qui n'est aucunement tyrannique et qui s'est au contraire donné pour nous, et en même temps qui nous dit qu'il y a un prix à payer à le suivre. Nous ne sommes pas juste copains avec Jésus pour avoir du plaisir, du bon temps, rire un bon coup ensemble, passer du bon moment ensemble, non. Être les amis de Jésus, oui, c'est une très grande joie. Il nous donne sa joie, il nous donne sa paix. En même temps, cette amitié implique des exigences très élevées. Jésus nous dit au verset 14, et là on cible plus notre texte, là. Vous êtes mes amis si vous faites quoi? Ce que je vous commande. Ce que je vous commande. J'ai déjà expliqué la signification de cette parole la semaine dernière. Jésus ne dit pas, si vous faites ce que je vous commande, alors je pourrai vous accepter comme ami. Vous aurez gagné le droit d'être mes amis. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le sens de cette parole. Jésus dit plutôt, j'ai déjà fait de vous mes amis par pure grâce. J'ai donné ma vie pour vous. Vous êtes mes amis, vous êtes réconciliés avec Dieu. Et maintenant, si vous faites ce que je vous commande, vous allez démontrer ce que vous êtes. Vous êtes mes amis et vous allez le montrer par votre obéissance, par la puissance de l'Esprit-Saint qui habite en vous. Mais dites-moi, combien de personnes vous ont déjà dit, tu es mon ami si tu fais ce que je te commande? Combien de personnes vous ont déjà dit ça? Et vous, à combien d'amis avez-vous déjà dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de cette manière à leurs amis. Nous n'allons pas nous mettre au-dessus de nos amis pour leur dicter notre volonté. Ça va de soi. Nous allons les traiter d'égal à égal. Jésus, lui, se permet de commander à ses amis proches. Il nous commande ce que nous devons croire et comment nous devons vivre. Pourquoi? Parce qu'il est notre Seigneur et nous sommes en même temps ses amis. Oui, vraiment les amis du Seigneur. C'est une très grande joie d'être ses amis. Mais jamais nous n'avons le droit de le traiter comme un simple copain. Il demeure notre maître et seigneur. Nous lui appartenons. Alors, sommes-nous prêts à mettre nos cœurs, nos talents, nos mains, notre argent, notre temps à son service, au service du maître? Sommes-nous prêts à le servir de bon cœur? Démontrons-nous par notre obéissance que nous sommes vraiment ses amis? Ceci nous amène à la deuxième partie. Nous sommes ses amis car il nous révèle ses secrets intimes. Vous rendez-vous compte, avez-vous déjà pensé sérieusement à la chose? Nous sommes les amis de Jésus. C'est lui qui nous le dit. Il nous l'a même prouvé. Quelle preuve nous a-t-il donné? Deux preuves ici dans le texte. D'abord par son amour en action. Il a donné sa vie pour nous, verset 13. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S'il a donné sa vie pour nous, c'est parce qu'il voulait vraiment faire de nous ses amis. Nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Et ensuite, deuxième preuve, c'est en nous dévoilant ses secrets. Il nous fait connaître ses pensées. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous l'ai fait connaître. Faire connaître à quelqu'un ses pensées, c'est une grande marque d'amitié. Qu'est-ce qui nous distingue des simples serviteurs? Oui, nous sommes serviteurs, mais plus que ça. Et qu'est-ce qui nous distingue d'un simple serviteur? C'est que Jésus nous a révélé ses secrets. Un maître n'explique pas à ses serviteurs quels sont ses projets, ses rêves, ses pensées intimes. Le patron donne des tâches à faire à son employé, et l'employé les exécute, il reçoit sa paye, et la relation s'arrête là. Et si votre patron vous donne des directives, certainement il ne vous révèle pas tous ses projets, tous ses secrets. Et si vous êtes patron vous-même, vous n'allez pas dire à vos employés tout ce qui vous tient à cœur, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus fait de nous ses amis proches, intimes, en nous faisant entrer dans son intimité, dans ses propres pensées. Dans Genèse 18, c'est ce que j'ai donné aux enfants, enseigné aux enfants tout à l'heure. Dieu a réfléchi en lui-même. Il a pensé à son projet magnifique en faveur d'Abraham et de sa descendance. Il a aussi pensé à son jugement contre Sodome et Gomorre, qui étaient en révolte contre Dieu. Et Dieu s'est dit en lui-même, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Et la réponse est non. Je ne vais pas le lui cacher, non, bien sûr, il est mon ami. Je vais lui faire connaître mon secret, mes plans. De même pour Jésus encore, plus. Cacherai-je à mes disciples ce que je vais faire? Eh bien non, il est dans la chambre haute ici et il leur dit tellement de choses. Non, ce sont mes amis, je vais leur ouvrir mon cœur. Je vais leur faire connaître mes pensées les plus profondes. Tout ce que mon Père m'a appris, tout ce qu'il m'a partagé concernant son amour, concernant son grand plan pour le monde, concernant son plan de rédemption pour l'Église, son plan de jugement aussi. Je ne vais pas le garder pour moi, dit Jésus. Je vais le partager à mes amis. C'est ça l'amitié. C'est toute une amitié. Connaître l'autre, et dans ce cas-ci, connaître Jésus, et bien sûr, connaître le Père qui nous est révélé par Jésus. Après le culte, nous avons la bonne habitude d'échanger entre nous. Nous prenons du temps pour fraterniser. Et de cette façon, l'amitié peut grandir entre frères et sœurs en Jésus-Christ dans l'Église. Quand je vois des personnes en conversation entre elles, je n'ose pas m'approcher trop. Ce n'est pas très poli de s'immiscer dans la conversation des autres. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais quand même, c'est attirant un peu. C'est intéressant d'écouter des bribes de conversation des autres. Parfois, la curiosité l'emporte. Sauf que si les deux personnes se connaissent bien et que moi, je ne connais pas le contexte, j'attraperai peut-être quelques bribes d'informations, mais je ne pourrais pas comprendre bien la conversation. Il va me manquer des éléments. Quand on n'est pas dans le cercle d'amis proches, on ne comprend pas bien les échanges entre les amis qui sont en train de se dérouler. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Nous ne faisons pas juste l'entendre à distance. Nous n'attrapons pas seulement quelques bribes d'informations qui seraient plus ou moins difficiles à décoder. Jésus nous inclut dans la conversation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La conversation et l'échange et le lien le plus proche qui soit possible d'imaginer, il nous y inclut. Il nous fait partager ses pensées. Vous êtes mes amis. J'ai plein de choses à vous dire et je les partage avec vous. Je vous ouvre mon cœur. Je vous ai appelé mes amis parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Remarquez bien le mot tout. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus a transmis à ses apôtres, ici c'est bien le contexte, il a transmis à ses apôtres tous les secrets que son Père lui avait dévoilés. Il n'en a pas caché une partie pour attendre plus tard, dans les siècles à venir, dans l'histoire de l'Église, avant de dévoiler le reste. Dans le contexte, en Jean 16, versets 12 et 13, Jésus leur dit aussi à ses apôtres, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Et dans Jean 14, 26, « C'est lui, l'Esprit, qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans la chambre haute, on se souvient, les apôtres sont inquiets, ils ont le cœur troublé, la tempête fait rage, leur maître s'en va à la croix. Ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas tout comprendre ce que Jésus est en train de leur dire, c'est tellement riche et profond. Ça s'embrouille dans leur tête. Mais une fois que Jésus aura donné sa vie sur la croix, une fois qu'il sera ressuscité, monté au ciel dans sa gloire et qu'il leur aura donné, déversé son Saint-Esprit, là, les apôtres vont se rappeler tous les secrets que Jésus leur avait dit. Le Saint-Esprit va leur rappeler. Tout va finalement se mettre en place dans leur esprit. Et ensuite, une fois que Jésus se sera révélé encore à l'apôtre Paul et puis encore à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos pour lui révéler les choses à venir qu'on voit dans l'Apocalypse, alors Jésus aura complètement fini de dévoiler toutes ses pensées intimes apprises de son Père. Complet. Révélation complète. Et les apôtres, à leur tour, ne nous ont rien caché. Tout ce qu'ils ont reçu de Jésus, ils nous l'ont dévoilé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, nous n'avons besoin d'aucune nouvelle révélation et nous ne devons nous attendre à aucune nouvelle révélation. Tous les secrets que Jésus voulait nous dire, il les a partagés avec nous, ses amis. Et pourtant, dans l'histoire de l'Église, beaucoup ont prétendu avoir reçu des révélations. Pensez par exemple à des miracles étranges et bizarres, des apparitions de Marie qui ont servi d'ailleurs à justifier la vénération des saints et le culte marial. Pensez aussi aujourd'hui, plus récemment dans l'histoire, plusieurs églises et plusieurs para-églises et plusieurs mouvements chrétiens ont été fondés par des dirigeants qui ont prétendu avoir reçu des messages de Dieu. Dieu m'a dit de fonder tel groupe. Dieu m'a dit de vous transmettre telle chose. Dans plusieurs églises et dans plusieurs mouvements chrétiens, on encourage les chrétiens à rechercher des visions, des rêves, des prophéties, des révélations nouvelles. Et ces groupes attirent souvent beaucoup de gens, ça devient populaire. Et si votre pasteur vous disait aujourd'hui, « Hey, j'ai reçu des nouvelles révélations », et si je vous disais, « Oui, vous pouvez en recevoir aussi », peut-être que nous attirions des gens plus encore, beaucoup plus. On serait peut-être plus populaire, mais on pourrait dérailler facilement. Le cœur humain a soif d'intimité avec Dieu. Le cœur humain a soif de connaître les pensées secrètes de Dieu. C'est pour ça que ces idées de révélation sont attirantes. Plusieurs s'imaginent pouvoir devenir des amis de Jésus plus proches, plus intimes que c'est le cas avec les autres chrétiens qui sont amis plus à distance. Pourquoi? Parce que eux, ils auraient prétendument reçu du Saint-Esprit des messages que les autres n'ont pas reçus. Ils seraient des amis plus proches. Malheureusement, ces ajouts à la parole de Dieu sont trompeurs à plusieurs égards. Alors, si quelqu'un vient vers vous et affirme « Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que », ne vous laissez pas séduire. Répondez à cette personne que Jésus a déjà fait de nous ses meilleurs amis. Il nous a déjà fait connaître ses pensées les plus intimes, ses secrets les plus profonds, à travers le témoignage des apôtres dans les Écritures saintes. Et cela me suffit. Cela devrait nous suffire amplement, pleinement. Quelle grande richesse nous avons! Sachons apprécier la grande amitié que Jésus nous porte. Comme dit l'apôtre Paul en Colossiens 3:16, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, avec sa richesse. Les secrets que Jésus a reçus du Père et qu'il a confiés à ses apôtres sont tous là, nous ont tous été confiés dans la Bible. Le Saint-Esprit ouvre nos cœurs à sa parole pour nous les faire comprendre, pas pour ajouter de nouvelles révélations, mais pour nous faire comprendre celles qui nous sont déjà données. Alors ne cherchons pas de nouvelles révélations, mais soyons plutôt enthousiasmés par le fait que nous connaissons les pensées profondes de Dieu. C'est le meilleur antidote aux prétendues révélations. Si nos cœurs sont remplis et habités de la parole du Christ, nous n'aurons besoin de rien d'autre. Depuis toute éternité, Dieu chérissait en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, son grand plan rédempteur. Ce grand plan rédempteur, il nous l'a révélé par son Fils Jésus-Christ et à travers les apôtres dans les Écritures saintes. Et ces pensées qui viennent de toute éternité viennent remplir nos cœurs de sa joie par le Saint-Esprit. Paul dit en 1 Corinthiens 2:9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce qui ne vient pas naturellement en nous, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. » C'est vrai pour tous les chrétiens. Cette parole est vraie pour tous les chrétiens, pas juste quelques privilégiés ou quelques illuminés. Quand nous lisons la Bible, quand nous la méditons, c'est Dieu qui nous parle comme à des amis. Quand la parole de Dieu est lue, le dimanche ici, prêchée, expliquée, le Seigneur Jésus vous parle comme à un ami. Bien sûr, tout le monde peut se procurer la Bible. Chrétiens, non-chrétiens peuvent lire la Bible, l'apprendre, l'étudier. Mais seuls ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent comprendre ce qu'ils lisent. Eux seuls ont reçu la lumière du Saint-Esprit pour faire comprendre, pour expliquer la parole de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus nous a aimés. Il nous a prouvé son amour. Il a donné sa vie pour ses amis. Et en plus, il nous a fait connaître ses pensées profondes. Il nous a fait entrer dans son cercle d'amitié le plus proche qui soit. Entrons chaque jour avec joie dans cette amitié intime. Notre amour pour Dieu ne pourra que grandir de plus en plus. Vais-je lui cacher ce que j'ai l'intention de faire? Non, dit le Seigneur. Je lui ai révélé ma pensée. Nous sommes comblés. Nous sommes les amis de Jésus. Réjouissons-nous de le connaître et de lui appartenir pour toujours. Amen.